Qui d'entre vous a déjà rêvé d'être un héros ou une héroïne? Ouais. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous n'osez pas, vous n'avez pas rêvé. Qui d'entre vous a déjà rêvé d'être un héros ou une héroïne? Ouais, voilà, c'est bon, il y en a quelques-uns. Un peu plus qu'avant. J'aimais bien jouer aux super-héros. À mon époque, quand j'étais enfant, c'était les Action Man. Ça dit quelque chose à quelqu'un, les Action Man? Des mecs musclés comme ça. Ouais, des choses comme ça, on est d'accord. Ils étaient forts, balèzes, et puis alors voilà, il y avait des belles bagarres hein, quand je jouais avec ces petits personnages. Quand on joue au super-héros, ça envoie. Il y a des guerres, il y a de la vitesse, il y a de la passion. Et quoi qu'il puisse arriver, je me souviens qu'un de mes Action Man s'était battu avec mon couteau suisse, mais il avait quand même gagné. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à être des héros. Et peut-être même à vous battre avec un couteau suisse. Pourquoi pas? J'aimerais vous inviter à être des héros ou des héroïnes. Et même plus que ça, j'aimerais qu'on puisse dégager ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on est un héros? Qu'est-ce qui fait qu'on est une héroïne? Nous prenons ce matin le troisième volet de cette mini-série sur le livre d'Esther. Et nous avons vu précédemment qu'Esther est entrée dans son appel, elle a osé affronter le roi, même au risque de mourir. Et nous avons vu qu'elle a aussi osé sauter du plongeoir, elle a osé faire le pas, de faire la demande au roi et puis d'abandonner ensuite tout contrôle sur sa demande. Alors ce matin, ce n'est pas Esther qui nous intéresse, c'est plutôt le personnage de Mardoché. Et avec Mardoché, on va apprendre à se comporter en héros. Ouais. Je vous invite à lire le chapitre 6 du livre d'Esther. Peut-être qu'on peut mettre un peu de musique pendant la lecture. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardoché à propos de Bigdan et de Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda: quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela? On ne lui a absolument rien accordé, répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demande alors: qui donc est dans la cour? En effet, Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent: « C'est Aman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre !» ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda: « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit: « Qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit: si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on ait posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi. Mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire monté sur le cheval sur la place de la ville et crier devant lui: voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Suspense. Le roi dit à Aman, « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. » Et fais tout cela pour le juif Mardoché qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville, en criant devant lui, « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent « Si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé. Fin de notre lecture. Reprenons notre question. Comment se comporter en héros ? Non, c'est bien qu'on s'y arrête. Dans ce chapitre 6, c'est le chapitre central du livre où Dieu est le plus à l'action possible. Dieu n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther, mais on le voit en coulisses, il est en train de tout conduire pour que ses projets s'accomplissent. Dans le contexte du livre, on se trouve entre les deux banquets du livre d'Esther. C'est-à-dire que Esther faisait patienter le roi en organisant un deuxième banquet. Le roi lui dit « Mais c'est quoi ta demande réelle ?» Puis elle dit « Non, non, je te dirai après ma vraie demande, mais viens au deuxième banquet. » Quant à lui, le roi se demandait quelle pouvait être la deuxième demande d'Esther. Finalement, qu'est-ce qu'elle veut me demander pour organiser deux banquets à la suite ? Mardoché, lui, attendait le verdict de la demande d'Esther. Esther qui va voir le roi en vue de libérer de faire annuler l'édit qui condamnait les juifs à l'extermination. Alors Mardoché, il était peut-être un petit peu comme ça, il attendait, mais qu'est-ce qui s'est passé de cette entrevue ? Et puis Aman, lui, tout va bien, il projette de faire mourir Mardoché avant le deuxième banquet, parce que c'est comme ça qu'il sera plus tranquille pour vivre ce banquet. Dans ce chapitre, il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ça soit seulement le fruit du hasard. Ce chapitre est une parodie. D'abord, on retrouve un roi qui est insomniaque. À ce moment-là, peut-être il a fait des excès de table. Sans doute. Mais une autre fois dans la Bible où on voit un roi insomniaque, c'est dans le livre de Daniel. Et on nous dit que le roi est insomniaque parce qu'il était préoccupé. Certainement que le roi Assuérus était préoccupé. Pourquoi la reine Esther m'invite à deux banquets sans me dire sa véritable demande ? Peut-être messieurs, je ne sais pas si vous êtes de la même situation, mais si votre femme vous invite deux fois de suite au restaurant, ça va peut-être vous préoccuper un peu, non ? Donc le roi est insomniaque. Qu'est-ce qu'il fait quand il est insomniaque ? Il demande à ce qu'on lui lise les archives, les annales, enfin ce qui s'est passé dans l'Empire. Ça ne devait pas être une lecture très intéressante, mais pour trouver le sommeil, ça peut être bien. Peut-être ça montre aussi sa préoccupation. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Est-ce que dans les jours, les semaines, les mois qui précédaient, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Alors, on lui lit les annales, et par bonheur, par plus grand des hasards, on lui lit le passage où Mardoché lui a sauvé la vie. Il a dénoncé un complot contre le roi et lui a sauvé la vie. Et par hasard encore, le roi se demande est-ce qu'on a honoré cet homme ou pas ? Et puis là, on lui dit non, cet homme n'a pas été honoré, n'a pas été remercié comme il le fallait. Encore par hasard, Aman se trouve dans la cour extérieure du roi à ce moment-là. Et il venait pour demander la permission de mettre à mort Mardoché. Je J'ai dit la semaine passée que le livre d'Esther était un livre, une œuvre littéraire magnifique. Beaucoup de choses se trouvent dans les mots, dans les structures de phrases. Et j'aime bien celle-là, quand Aman se trouve dans la cour extérieure du roi, le texte nous dit que c'est vraiment la cour extérieure du roi. C'est un lieu autorisé où tout le monde pouvait aller. Donc Aman ne risque pas sa vie pour aller demander au roi de faire pendre Mardoché. À l'inverse, Esther est venue pour faire sa demande au roi dans la cour intérieure. Et là, on n'a pas le droit d'entrer comme ça. Esther a risqué sa vie pour faire sa demande, alors qu'Aman, lui, il entre un peu comme il veut chez le roi. Donc ça nous dit déjà quelque chose du personnage d'Aman. Un autre détail intéressant, c'est qu'Aman est dans la cour du roi, il va discuter avec le roi. Il a une demande, c'est de faire pendre Mardoché. À aucun moment, le roi se préoccupe de sa demande. À aucun moment, Mardoché peut donner sa demande au roi. Alors que le roi demande par deux fois à Esther, mais c'est quoi ta vraie demande ? Ces petits marqueurs littéraires nous montrent que le vent est en train de tourner pour notre pauvre Aman. Enfin, pauvre, il l'a cherché. Et là, comme par hasard, vu qu'il y a Aman dans la cour, le roi lui dit ben, qu'il entre, et puis je vais lui poser la question, comment est-ce qu'on honore quelqu'un comment est-ce qu'on honore quelqu'un qu'on veut honorer ? Aman, lui, comme par hasard, interprète aussi maladroitement l'intention du roi, en imaginant que c'est lui que le roi veut honorer. Alors, il va proposer quelque chose de complètement démesuré. Porter un habit royal, monter le cheval du roi, c'est presque une usurpation de pouvoir. Alors, pour nous, au XXIe siècle, on voit ça comme une balade à cheval dans la ville. C'est bien plus que cela à l'époque, dans l'Antiquité. C'est presque être l'égal du roi. Notez aussi que le roi, le cheval, doit porter une couronne royale. Le fait que ce ne soit pas Aman qui peut la porter, c'est juste que ce n'est pas le roi lui-même, mais le cheval, par contre, doit la porter. On voit là un désir fou d'Aman de devenir le roi, de prendre la place du roi. Et le roi, aussi étonnant que cela puisse paraître, approuve ces mesures. Approuve ces mesures complètement démesurées. Le roi ne comprend pas ce qui se passe chez Aman. Mais là, il y aura un retournement de situation. Le quiproquo entre Aman et le roi est levé lorsque le roi lui dit « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, fais-le pour le juif Mardoché. » Pardon ? Pour le juif Mardoché. Le juif Mardoché ? Oui, le juif Mardoché. La douche froide pour Aman. Et Aman doit se soumettre au roi. Quelle humiliation pour lui. Lui qui était si proche d'obtenir la mise à mort de Mardoché et pensait qu'il allait être honoré, se retrouve finalement à donner les honneurs à celui qui prévoyait d'assassiner. C'est beau le hasard, non ? Ce chapitre-là est un chapitre charnière. Plus rien ne sera comme avant. Ce chapitre amorce la chute d'Aman et l'élévation de Mardoché. Alors qu'Aman était placé au chapitre 3 au-dessus des dirigeants, finalement, il se retrouve être un simple homme parmi les dirigeants. Et Mardoché, lui, reçoit un nouveau vêtement, reçoit le vêtement du roi. Et les vêtements, c'est important pour Mardoché. Au chapitre 4, quand l'édit d'extermination des Juifs est signé par le roi, Mardoché porte un vêtement de deuil. Il porte ce vêtement, il n'est plus autorisé à exercer son travail. Désormais, retournement de situation, c'est le vêtement du roi en personne qu'il est en train de porter. Ce n'est pas juste un beau vêtement, mais c'est un changement de statut social. On retrouve là un parallèle avec l'histoire de Joseph. Je n'ai pas le temps de le creuser, mais c'est très intéressant de faire les parallèles entre Joseph et Mardoché. Joseph aussi reçoit un nouveau vêtement. Mais on voit que dans l'histoire de Mardoché, c'est encore supérieur. Comme si l'auteur voulait montrer au lecteur, mais Dieu est fidèle. Comme j'ai été fidèle avec Joseph, je le serai d'autant plus avec Mardoché et mon peuple. Mardoché porte un vêtement royal. Comment en est-il arrivé là ? Mardoché n'a pas reçu les honneurs parce qu'il a cherché à les gagner, mais parce qu'il est resté fidèle. Mardoché est un exemple de stabilité et de fidélité. Que le temps soit à l'épreuve, au deuil ou aux honneurs, Mardoché reste pour accomplir sa mission à la porte du roi. Chaque fois qu'on croise Mardoché dans le livre, on dit qu'il est à la porte du roi. Et on le retrouve 10 fois dans le livre, cette notion de porte du roi. Alors c'est quoi cette porte du roi ? Dans l'Antiquité, la porte des villes était des lieux importants pour la vie administrative et politique de la cité, et particulièrement dans l'Empire perse. La porte du roi, c'est un lieu stratégique pour administrer, pour gérer le palais. De là, on peut déduire que Mardoché occupait une place de fonctionnaire au sein de l'administration royale. Mardoché est un juif qui est bien intégré dans l'Empire perse. Il est à cette porte du roi, il gère l'administration du royaume. À chaque fois, Mardoché est fidèle à son poste de travail. Quand bien même l'épreuve est là, le deuil est là, on retrouve Mardoché qui est vers la porte du roi. Quand les honneurs sont là, quand il se fait balader à cheval dans toute la ville, on lit ensuite, après, Mardoché retourne à la porte du roi. Donc ce n'est pas le deuil ou les honneurs qui lui ont dicté la voie à suivre, mais c'est son appel à servir Dieu, à faire son travail, à faire la mission que Dieu lui confie. Il y a là un contraste saisissant avec Aman. Pour Aman, les honneurs étaient une quête. C'est le travail de toute sa vie, vouloir être accepté des autres, vouloir les honneurs, vouloir la gloire, vouloir le pouvoir. Pour Mardoché, les honneurs, c'était un don. Alors qu'Aman est impatient, égoïste, orgueilleux, il rentre chez lui complètement effondré. Et Mardoché, lui, il garde cette stabilité. Après avoir reçu les honneurs, il retourne à la porte du roi faire son travail. La quête d'Aman n'aboutit à rien. Même sa femme et ses amis lui disent « Si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » C'est intéressant parce que c'est la femme qui avait proposé à Aman de pendre Mardoché. Et maintenant, elle lui dit « Mais en fait, cet homme, certainement, en fait, en t'attaquant à cet homme, tu t'attaques à Dieu. Et tu ne pourras rien faire pour remporter la partie. » Le retournement de situation est complet, définitif. Mais Aman, dans cette situation, garde cette fidélité à son poste et cette stabilité. J'ai déjà raconté la fois où j'ai fait une régate en bateau. Non, ça ne vous dit rien. C'était un camp avec l'école. On avait fait un camp de voile à la vallée de Joux. Et puis, toute la semaine, on n'avait pas eu beaucoup de vent. Et puis, le dernier jour, le moniteur de voile avait dit, on va faire une course de bateau. Puis, le premier qui arrive, il reçoit un lot. J'étais avec un copain, on était deux dans les bateaux. Et puis voilà, on commence la course. Et finalement, enfin, c'est impossible d'avancer, il n'y avait pas de vent. Finalement, ce qu'on prend à quelques mètres de l'arrivée, c'est qu'on enlève la dérive du bateau et on commence à ramer avec la dérive. Alors là, on avançait plus vite. Sauf que le bateau, il s'est incliné. Alors on a quand même gagné, parce qu'après on s'est mis dans l'eau, puis on a poussé le bateau. On nous a dit que c'était triché. Les règles n'étaient pas très claires non plus. Mais quand on enlève la dérive du bateau, ça change tout. C'est une pièce qu'on ne voit pas comme ça, mais si on enlève cette stabilité, ça change tout. Il y a un déséquilibre. Alors comment nous comporter en héros ? Comment être un héros aujourd'hui ? Je crois que les clés que nous donne Mardoché, c'est la stabilité et la fidélité. Cette stabilité et cette fidélité, c'est pas de l'immobilité ou de la passivité, c'est au contraire un signe de maturité. Mardoché connaît sa mission, il sait ce qu'il a à faire. Celle de demeurer à la porte du roi. Autant dans l'épreuve, autant dans les honneurs, il ne bouge pas de sa position. La peur ne détrône pas son appel. Les honneurs ne le déstabilisent pas non plus. Et je crois qu'on vit, peut-être comme dans l'époque perse, un monde qui bouge sans cesse. Il y a des tensions politiques. J'ai même lu un article qui parlait de stratégie du chaos. L'idée, c'est de semer le chaos. On ne sait plus tellement ce qu'on pense. De semer la peur pour pouvoir agir. Un certain président aux cheveux blonds et maître dans l'art du chaos. Notre société voit aussi l'anxiété croissante chez les jeunes. Ces tensions s'inquiètent du réchauffement des températures. On se pose aussi des questions sur l'intelligence artificielle. Quels sont ses bénéfices, mais quels sont aussi ses risques? Il y a toutes sortes d'inquiétudes dans notre monde. Et je crois que notre monde aujourd'hui a désespérément besoin de héros et de héroïnes. Des héros non pas comme Aman qui bouge dans tous les sens, mais des héros qui font preuve de fidélité et de stabilité. Ce texte nous invite à retourner à la porte du roi, à ce lieu où Dieu nous a placés. Nos peurs nous ont parfois fait renoncer à notre appel. La peur du regard des autres, la peur de l'échec. Et comme c'était partagé avant, peut-être un sentiment d'indignité nous a fait renoncer à notre appel. Je ne suis pas digne d'être accepté de Dieu. Je ne suis pas digne d'être à la porte du roi. Je ne suis pas digne de l'appel qu'il me confie. Peut-être parfois que les honneurs ont aussi détourné notre route, le succès, le regard des autres. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à rester à la porte du roi. Et je crois qu'en tant qu'Église, c'est un combat permanent. Dans un monde qui bouge sans cesse, de rechercher fidélité et stabilité. Et je crois que c'est peut-être des ingrédients aussi, si on veut voir un réveil, si on veut voir des choses bouger dans la région, c'est de garder cette stabilité dans la confiance de Dieu. Cette fidélité dans notre appel à être témoin de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Et comme le dit la femme d'Aman, cette prophétie, aucun ne peut gagner la partie contre le peuple de Dieu. Ce qu'elle dit là, c'est presque une prophétie. Si ce Mardoché est juif, alors tu ne peux rien contre lui. Et peut-être si on a besoin de preuves actuelles, l'existence encore aujourd'hui d'Israël montre que Dieu est fidèle aussi envers son peuple. Des empires ont passé, mais ce petit peuple reste encore là. S'il y a de l'opposition, ce texte d'Esther nous montre que Dieu aura le dernier mot. J'aimerais vous laisser quelques questions. Quel est mon appel ? Quel est votre porte du roi, l'endroit où Dieu vous appelle à être et à rester ? qu'est-ce qui peut me dérouter de mon appel? Quels sont les obstacles qui font que je pourrais me détourner de cet appel, de ce rôle que Dieu m'a confié? Et comment être fidèle et stable dans mon appel? Je crois que quand on parle de stabilité et de fidélité, c'est pas simplement se dire que voilà, c'est bien, on est tranquille, on ne bouge pas. Mais c'est fuir une forme de tiédeur ambiante. C'est montrer qu'on est là, ancré, solide. Comme ces arbres qui tiennent les tempêtes. J'aimerais aussi relever ces paroles qui ont été prononcées. Ce chant « Viens, ne tarde plus ». Avec cette urgence, dire « Mais pour certains, c'est aujourd'hui qu'il y a peut-être un pas à faire ». Peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi ce sentiment d'indignité qui est là. Si tu fais partie de ces gens qui ne sentent pas dignes d'être acceptés par Dieu, avec Pierre, équipier de prière, on sera disponible pendant la scène aussi pour prier pour vous. Pour que vous puissiez, comme Mardoché, revêtir ce manteau que Dieu veut vous donner, ce manteau de dignité. Je vous invite à prier.